le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Nous voici 15 jours après Pâques. Les églises chrétiennes ont célébré la résurrection du Christ. Ces églises ont réaffirmé que la résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Mais il faut bien le dire, même après 2000 ans de réflexion et d'études théologiques, cette résurrection n'est pas simple à annoncer, ni simple à expliquer. Et d'ailleurs, à la lumière de nos connaissances scientifiques, elle est même impossible à croire. Ce matin, nous allons parler de cette incroyable à croire, nous allons parler de cette résurrection du Christ et nous allons la comparer aux autres résurrections qui sont racontées dans la Bible. Vous êtes à l'écoute du service protestant sur France Culture. Très bon début de journée à chacun et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour nous éclairer sur cette question de la résurrection, nous accueillons Éric Denimal, qui est pasteur de l'Union des Églises Évangéliques Libres de France. Éric Denimal, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes pasteur, conférencier, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation sur la Bible et le protestantisme. Je cite rapidement « La Bible pour les nuls » ou « Le protestantisme pour les nuls », mais il y en a d'autres. Bon, j'ai bon espoir qu'avec vous, à la fin de cette émission, nos auditeurs et moi-même ayons peut-être une représentation un peu renouvelée de la résurrection.
Je l'espère aussi.
Alors, pour bien comprendre de quoi il est question, quand on parle de résurrection, nous allons dans un premier temps aller faire un tour dans la Bible et dans le texte retenu pour aujourd'hui, qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 35 à 48. Alors, on va retrouver les disciples dans cet extrait quelques jours après la crucifixion de Jésus. Son tombeau a été retrouvé vide et plusieurs témoignages rapportent déjà que Jésus est vivant, qu'il est revenu de la mort à la vie. Avant de découvrir ce texte, Éric Denimal, pouvez peut-être nous dire dans quel état d'esprit sont les disciples? Comment ça va se passer là?
On va le voir avec le texte de Luc 24. En fait, les disciples vont découvrir quelque chose. Ils ont entendu dire des choses, mais ce sont des femmes qui l'ont dites. Alors, peut-être que ce n'est pas tout à fait sûr. Et puis il y a surtout l'angoisse, la peur, l'anxiété et le désespoir. C'est le vide.
C'est le vide.
Le tombeau est vide, mais eux sont vides aussi. Ils sont vidés.
Voilà. Et ils ont du mal à croire tout ce qu'ils entendent, tous les témoignages qu'on leur a déjà...
Il faut se remettre de leurs émotions. Voilà. Ils ont besoin de se remettre, ils ont besoin de se reconstruire. En fait, ils savent pas où ils sont. Ils savent plus où ils habitent.
Alors, on va lire cet extrait pour mieux comprendre dans quel état d'esprit ils sont. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'est l'évangile de Luc, le chapitre 24, les versets 35 à 48. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. Qu'est-ce que vous retenez dans un premier temps de ce texte, Éric Denimal?
Eh bien, il y a bien sûr la stupeur, il y a l'incompréhension, le doute, bien sûr, des disciples. Tout cela est bien perceptible parce qu'ils ont l'impression de voir un fantôme. D'ailleurs, c'est pas la première fois. Hein, au moment de la tempête apaisée, où Jésus marche sur l'eau, etc., il y a un doute qui est là. On a l'impression qu'il y a un fantôme. Et là aussi, Jésus est mort. Normalement, ils l'ont vu sur la croix, ils l'ont vu mort. Et là, maintenant, il est vivant. Les disciples d'Emmaüs ne l'avaient pas reconnu non plus. Il y a eu un échange là pendant tout un temps, et il a fallu un geste qui ouvre le souvenir, c'est la fraction du pain. Et puis, les autres disciples ont entendu dire, comme je le rappelais tout à l'heure, que les femmes ont entendu, ont vu le tombeau vide. Il y a des témoignages un petit peu bizarres. Certains disent, on a vu un ange, on a vu quelqu'un, on croyait que c'était le jardinier. Enfin, il y a tout ce trouble-là, ce doute-là. Et puis, maintenant, Jésus apparaît, les disciples sont tous là, enfin tous là, il en manque un, il y a Thomas qui n'est pas présent, enfin il y en a deux qui manquent, il y a Judas qui est mort. Puis il y a Thomas qui n'est pas là. Et il y aura une séance de rattrapage en quelque sorte pour Thomas, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, pour le moment, il y a ce doute complet, il n'arrive pas à saisir ce qui se passe, et il va falloir que Jésus montre qu'il est là, et qu'il est là matériellement, puisqu'il va même demander un menu un peu spécial, hein, du poisson et du miel. Bon, moi, je trouve que ça se mélange pas trop bien. Mais enfin, vous avez le repas et le dessert, en quelque sorte.
C'est ça.
Donc voilà. Et pourtant, Jésus avait bien parlé de la résurrection. Je veux dire, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Les témoins, enfin, les disciples ont même été témoins de plusieurs résurrections. Et il y a eu plusieurs résurrections, effectivement.
Donc, on va revenir sur ces résurrections. Mais justement, je disais en introduction qu'on allait peut-être faire un petit tour d'horizon des différentes résurrections qu'on trouve dans la Bible. Alors, on pourrait peut-être commencer par les premières qu'on va trouver dans l'Ancien Testament.
Dans le Premier Testament, oui. En fait, il n'y a pas énormément de résurrections dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament.
Mais il en existe.
Il en existe. Il y en a au moins deux qu'on repère, avec deux prophètes importants. Le premier prophète, c'est Élie. Le deuxième prophète, c'est Élisée. Et puis, chacun vont ressusciter une personne jeune. Élie va ressusciter.
Donc, ils vont ressusciter des morts prématurés, en fait.
Des morts qui sont morts prématurément, des morts incompréhensibles. Et puis, ils vont réveiller, ramener, réanimer, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, ils vont ressusciter. Et puis, ces personnes vont vivre leur vie, leur espace de vie terrestre. Et puis, ces personnes vont remourir, en quelque sorte.
Mais après, une vie complète.
Après, une vie une vie dont on n'a pas de renseignements. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que une des deux résurrections, c'est une femme qui était stérile, qui a prié. Le prophète lui a dit, tu auras un enfant. Oui. Et cette femme a eu finalement un enfant. C'est avec le prophète Élisée que la chose se passe. Et puis, au bout de quelque temps, l'enfant meurt. Et là, la femme va voir le prophète en disant, si c'était pour ça, ça vaut pas la peine. Oui. Et là, par compassion, par amour, le prophète va intervenir, va prier, et l'enfant va revenir à la vie.
D'accord. Qu'est-ce qu'elles racontent, en fait, ces résurrections? Pourquoi sont-elles racontées?
Elles sont là pour parler d'abord d'une certaine puissance, la puissance de Dieu, qui est capable de ramener de la mort à la vie. Oui. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, c'est peut-être aussi pour alimenter une espérance qui va grandir progressivement avec cette notion d'une autre vie, d'une vie autre que celle que l'on vit maintenant, avec la capacité, la possibilité de sortir de la mort pour vivre autre chose dans un ailleurs qu'on ne connaît pas naturellement, et que l'Ancien Testament va progressivement dessiner de façon très très difficile, parce que on a parfois des textes contradictoires. On annonce à la fois qu'il y a peut-être quelque chose après, et puis parfois il y a des textes qui nous disent mais peut-être il n'y a pas d'espérance. Donc on est dans un tâtonnement assez important quand même. On n'a pas de théologie très claire Ce qui n'empêche
que... Sur cette question de la résurrection,
sur cette question de la résurrection. Oui, oui. Il y a, par exemple, la maman de Samuel, Anne, qui était aussi une femme stérile, qui finalement a eu un enfant, qui est donc reçu comme un don de Dieu. Et quand elle remercie Dieu, elle a une espèce de psaume qui jaillit d'elle-même. Et elle dit bien, tu es le Dieu Tout-Puissant qui fait sortir de la mort et qui donne la vie. Et qui fait sortir du séjour des morts pour vivre. Et là, on a vraiment l'impression que l'on passe vraiment d'une situation de mort à une vie. Mais ce n'est pas très précis.
D'accord. Donc, on va continuer à voir un petit peu d'autres endroits dans la Bible où il y a eu des questions de résurrection. On va passer donc dans le Nouveau Testament, peut-être, maintenant, tout de suite.
Alors, oui.
Parce que là, il y en a plus, quand même.
Il y a plus de résurrection, effectivement.
Alors que l'Ancien Testament est plus volumineux.
Oui, tout à fait. et les résurrections, en tout, du temps de Jésus, avec le ministère de Jésus, il y en a au moins 3. Il y a aussi 2 enfants. Il y a des
résurrections, là, qui sont attribuées à Jésus.
À Jésus. C'est Jésus qui intervient et qui ressuscite. Alors, il y a la fille de Jaïrus, donc c'était encore une enfant. Il y a le fils de la veuve de Naïm. Naïm, c'est un petit village. Là, on a le sentiment que Jésus a compassion de cette veuve qui a perdu son fils. Parce que, quelque part, on sent qu'il sait ce qui va se passer le concernant lui-même. Sa mère est certainement veuve et elle va perdre aussi son fils. Et donc, on a l'impression que Jésus entre dans une compassion particulière à l'égard de cette femme. Il va donc ressusciter ce fils. Et puis, bien sûr, il y a la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus.
Oui.
Avec notamment une intervention de la sœur de Lazare, qui est Marthe. Et quand Jésus lui dit, mais tu sais, il va ressusciter. Donc, Jésus croit en la résurrection, en tout cas. Et Marthe va dire, oui, je sais qu'il y aura une résurrection à la fin. Et Jésus lui dit, peut-être qu'il ne faudra pas attendre aussi longtemps, il va peut-être y avoir une autre résurrection. Et là, on sent qu'il y a 2 types de résurrection qui sont là et qui existent dans la pensée des personnes qui sont présentes.
Alors là, il y a la résurrection de Lazare est aussi une résurrection unique. L'intervention de Jésus est quand même différente que... pour les autres résurrections, où on le sent, on a l'impression, d'après les textes, qu'il est beaucoup plus impliqué. On dit que Jésus pleure,
oui,
la mort de Lazare.
Alors justement, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi il pleure, puisqu'il va le ressusciter dans 5 minutes.
Oui.
J'ai le sentiment que Jésus pleure sur la condition humaine qui conduit à la mort. Il pleure sur la mort qui est ici présente tout autour, etc. Sur cette destinée qui n'était pas nécessairement la destinée humaine. On sait que la mort est entrée dans le monde à cause d'une désobéissance. Alors là, on va parler du premier Adam. Voilà.
Oui.
Et donc, à partir de ce moment-là, il y a la mort qui entre dans le monde, en quelque sorte. Et Jésus pleure sur cette condition en disant, ou en pensant, ou en laissant entendre plus exactement que ce n'était pas vraiment la destinée. La destinée, c'est la vie. Et il va donner vie. Il va rendre la vie à Lazare. Une des autres différences, c'est que toutes les résurrections qui ont lieu, particulièrement dans les évangiles, enfin les 2 premières dont j'ai parlé tout à l'heure, la fille de Jaïrus et la fille, le fils de la veuve, ce sont des morts assez rapides. L'intervention de la résurrection est assez immédiate.
C'est ça.
Tandis qu'avec Lazare, Marthe va dire, attends, on va pas ouvrir le tombeau.
Ça fait 3 jours
ça
déjà.
Ça fait déjà 3 jours. Et il sent déjà même. Donc on dit que on entend bien là quelque part qu'on est devant une vraie mort. C'est pas simplement une séance de réanimation. Au bout de 5 minutes d'arrêt cardiaque. Donc là, on est vraiment dans une autre situation. Et ce qui est intéressant aussi dans cela, c'est de montrer, de voir que Marthe croit en la résurrection comme tout un courant religieux de l'époque de Jésus, qui est le courant des pharisiens.
Oui, alors là, c'est intéressant de noter que déjà à l'époque de Jésus, au niveau de la résurrection, il y avait des courants théologiques qui pensaient pas toujours la même chose.
Pas tous la même chose. En tout cas, les pharisiens croyaient en la résurrection. Et un autre courant théologique très important aussi, les sadducéens, donc c'est deux écoles de théologie, rapide, les sadducéens, eux, n'y croyaient pas. Eux, ils ne pensaient pas. Ils pensaient qu'il y avait c'était un néant. Et donc, il y avait une tension. Et donc, il y avait ce courant qui existait à l'époque de Jésus. Jésus, lui, va venir pour dire, entre autres, qu'il croit en la résurrection, parce qu'il annonce, on l'a rappelé tout à l'heure, et sa mort et sa résurrection. Mais les deux choses sont incompatibles dans l'esprit des disciples. Par exemple, Pierre, lorsque Jésus va lui dire, mais tu sais que je vais à Jérusalem et je vais y mourir, et Pierre n'est pas d'accord avec cela. Pierre, j'allais dire gourmande, j'avais envie de dire un autre mot un peu plus sévère, mais Pierre va arrêter Jésus en lui disant, tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. Le texte biblique est très intéressant parce que Pierre rabroue Jésus, de la même façon que Jésus, lui, a rabroué la tempête pour la calmer. Donc le même terme est utilisé et on entend une certaine violence. Ce qui montre bien que pour Pierre, c'est inconcevable que le Messie, parce qu'il vient de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », donc voilà, ça c'est sa foi, et pour lui, le Messie ne peut pas mourir. Et quand Jésus dit juste après « Mais tu sais, je vais mourir, il faut que je meure », là il lui dit « Non, tu arrêtes, ça tu ne le dis pas, tu peux pas le dire, tu peux pas dire un truc pareil, c'est inconcevable ». Et c'est peut-être une des explications qui permet de comprendre pourquoi les disciples ont tellement de difficultés à encaisser la mort de Jésus.
La disparition de Jésus, là, oui.
Même si Jésus le leur a dit à plusieurs reprises, et de différentes façons.
Oui, parfois il les a prévenus.
Il les a prévenus. Alors parfois, c'était un peu de façon codée.
Voilà, c'est ça. Jésus parle quand même de façon un peu codée.
Quand il dit « détruisez ce temple et dans 3 jours, je le rebâtirai », les premiers auditeurs pensent qu'on parle du temple, et là, ils disent « mais franchement, et là, il a pris un coup de soleil, c'est pas possible. »
Sauf qu'il veut dire que le temple de Dieu, c'est son corps.
Voilà, et ça, Jean le précise en faisant une espèce d'incise dans son évangile, en disant « oui, mais il parlait de son corps. »
C'est ça.
Mais Jean, en quelque sorte, il a vu les choses qui se sont déjà passées. Donc, il réinterprète tout.
Il a du recul.
Il a du recul. Mais sur le coup, annoncer la destruction du temple et en 3 jours je le rebâtirai, c'est très mal passé. D'ailleurs, ça fait partie des accusations que Jésus va recevoir. On a dit qu'il allait détruire le temple.
Voilà,
ça c'était une chose que les prêtres, naturellement, ne pouvaient pas encaisser non plus.
Alors, dans les évangiles, donc on a les résurrections qui sont attribuées à Jésus, que Jésus a opéré,
oui.
Et il y a d'autres résurrections aussi qui sont dans le livre des Actes des Apôtres.
Ah, mais vous avez drôlement bien travaillé votre texte. Oui, effectivement. Il y a deux résurrections, en tout cas dans le livre des Actes. Une qui est attribuée à Pierre et une qui est attribuée à Paul.
C'est intéressant de le relever pour dire que c'est pas que Jésus qui peut en fait ressusciter.
Et ça montre que ça continue.
Ça continue
après. Avec deux personnages importants, emblématiques du livre des Actes, c'est Pierre et Paul. Et parfois on a l'impression que Pierre et Paul sont deux personnes qui vont être un peu en duel dans le livre des Actes. On a l'impression que Paul va prendre beaucoup plus d'importance à partir d'un certain moment. Mais Luc qui raconte les épisodes équilibre parfaitement les choses et il attribue à Pierre une résurrection, la résurrection d'une femme qui s'appelle Dorcas, et puis la résurrection, une résurrection par Paul, qui est la résurrection d'un jeune homme, Eutychus. Vous savez, c'est cette histoire assez rocambolesque. Eutychus écoute l'apôtre Paul, c'est un jeune homme, et l'apôtre Paul parle beaucoup trop longtemps. J'espère qu'on ne va pas en faire trop longtemps, nous.
Non, oui, on va essayer.
Mais il parle tellement longtemps que Eutychus, qui est assis au bord de la fenêtre, s'endort et tombe en plus de mauvais côté, il tombe de 2 ou 3 étages et Paul va le réanimer ou le ressusciter. Enfin voilà. Donc il y a aussi des résurrections après coup, d'accord, en quelque sorte.
Alors bon, après ce tour d'horizon des résurrections dans la Bible, on va faire peut-être un focus sur la résurrection de Jésus et peut-être voir qu'est-ce qui la différencie des autres.
Alors, une des choses qui différencie vraiment, c'est toutes les résurrections dont on a parlé, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit avec Jésus et que ce soit avec le livre des Actes, il y a eu une intervention de quelqu'un. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on a les prophètes qui intercèdent, qui prient. Jésus qui prie pour les 3 personnes dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, Pierre d'un côté et Paul de l'autre vont intervenir. Donc, il y a une intervention, il y a un médiateur, en quelque sorte. Pour la résurrection de Jésus, on n'a pas d'indication. Je repensais à cela tout à l'heure encore, avant l'émission, oui. Et je me suis dit, mais c'est drôle, on aurait pu penser que les disciples auraient fait une réunion de prière et oui. prier en disant, bon, on peut peut-être prier, etc. Bon, oui. on n'a rien de tout ça. Jésus ressuscite de lui-même, si j'ose dire. C'est la puissance de Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'apôtre, voilà, j'allais dire, c'est spontané. Et c'est exactement conforme à ce que Jésus avait annoncé. Au bout de 3 jours, il ressuscitera. Les 3 jours sont peut-être aussi là, comme pour Lazare, pour montrer que c'est vraiment une vraie mort. Encore une fois, c'est pas un coma, c'est pas une perte de conscience. Il y a vraiment une situation très précise. Si on oublie encore tout le physique, les attaques physiques que Jésus a pu connaître avant de mourir.
Parce qu'en même temps, l'histoire telle qu'elle est racontée, elle entretient une certaine ambiguïté, parce que c'est vrai que Jésus meurt rapidement sur la croix, il est rapidement enseveli parce qu'il y a le sabbat qui arrive, et du coup, on peut toujours imaginer que les choses ont été faites de telle façon que il aurait pu être encore vivant.
Alors, en fait, difficilement, c'est-à-dire qu'il avait déjà pris 40 coups moins 1 de fouet. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un châtiment ultime avant la mort. Et puis, il y a la fameuse lance qui vérifie que Jésus est vraiment mort. Donc, cliniquement, je dirais...
Normalement, il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute.
D'accord.
Alors après, c'est vrai que c'est un peu précipité, mais comme vous l'avez rappelé avec justesse, c'est le sabbat. Donc, on se dépêche d'enlever les corps parce qu'il va y avoir du monde. En plus, c'est Pâques. Hein. Donc, donc il va y avoir du monde. Il y a tous les touristes et tous les amis qui viennent à Jérusalem. Et ça fait moche dans le décor. 3 corps suspendus.
Alors peut-être pour terminer cette émission, on n'est pas encore tout à fait au bout, mais enfin ça avance. Il serait quand même intéressant de voir qu'est-ce que cette résurrection de Jésus qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, comment cette résurrection peut intervenir, changer nos vies, à vous, à moi. Quel intérêt ça a pour nous aujourd'hui de savoir que Jésus, quel impact, est mort et ressuscité.
En fait, une des choses que l'on remarque dans les évangiles, c'est que la plupart du temps, quand Jésus disait des choses importantes, et qui étaient tellement importantes ou tellement étranges qu'on avait du mal à les croire, il fallait qu'elles soient associées, ces choses, associées à un miracle qui suit. Par exemple, quand Jésus dit « ta foi t'a sauvé, tes péchés t'ont pardonné », il dit ça, par exemple, au paralysé. Ok, d'accord, tes péchés sont pardonnés, mais ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut croire que cette parole est juste, vraie et crédible? Et il sent bien, Jésus sent très bien que les auditeurs sont là en train de se poser des questions. Mais a-t-il le droit de le dire? Est-ce que c'est valable ce qu'il dit, etc. Et là, il va dire, mais qui peut le plus peut le moins. Qui est capable de dire tes péchés sont pardonnés? Et qui est capable de dire, écoute, lève-toi, prends ton lit et marche. Et parce que ma parole est sûre, je te le dis maintenant, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le miracle s'accomplit. Le miracle vient toujours asseoir l'autorité de la parole qui a été donnée. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la résurrection et la vie, qu'il propose la vie éternelle. Il faut qu'il y ait une crédibilité derrière cette parole. Et cette crédibilité, ça va être le geste physique. Jésus est vraiment ressuscité. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, ce n'est pas simplement un beau message qui a été distribué tout au long du ministère de Jésus. C'est plus qu'un beau message qui pourrait être perçu simplement comme philosophique et humaniste.
Vous voulez dire que le message prend de l'ampleur, prend de l'épaisseur, parce que Jésus est mort et ressuscité. Oui. Le message en lui-même n'est pas suffisant.
Le message est bon, mais le message n'est pas simplement pour dire aimez-vous les uns les autres, réconciliez-vous, pardonnez-vous réciproquement, etc. Tout ça, c'est gentil pour ici et maintenant.
C'est plus que gentil.
Mais déjà, faut le vivre. Oui. Donc, c'est déjà quelque part au niveau de la philosophie de vie, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. Mais le message du Christ est un message qui va beaucoup plus loin, qui va plus loin que notre vie ici et maintenant, avec quelque chose qui est en amont Et après, il y a quelque chose de toute éternité, et nous sommes invités à entrer dans cette éternité-là. Et la résurrection du Christ nous permet d'envisager, d'entrer dans cette éternité-là. Et même l'apôtre Paul est quand même plus catégorique que cela. Il dit, si Jésus n'est pas ressuscité...
Ah, lui, il est catégorique.
Ah oui. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire, en plus, on est menteur, parce qu'on vous a dit qu'il était ressuscité. Mmh. Et vous pouvez pas croire des menteurs. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors tout ce que l'on est en train de dire n'est construit sur rien. Mmh. Et ça, c'est quand même assez flagrant et assez hallucinant. C'est audacieux. Parce que, d'un seul coup, on se dit, mais... si je ne crois pas en la résurrection, qu'en est-il de moi, de ma situation et même de ma spiritualité? Est-ce que ma spiritualité a les trois dimensions, en quelque sorte? Est-ce que ma spiritualité dépasse l'aujourd'hui et maintenant? Ce qui me semble très intéressant de noter, c'est que cela dépasse vraiment l'entendement. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire un acte de foi.
C'est ça.
S'il n'y a pas d'acte de foi, c'est impossible.
On ne comprend pas la résurrection par la raison.
Non, pas du tout.
C'est ce que vous voulez nous dire.
Tout à l'heure, vous parliez de raisonnement scientifique.
Oui.
Bah, scientifiquement, ça tient pas la route. Je suis désolé.
Oui.
Donc, on est hors de toute logique, hors de toute vérification possible. Mais on est sur quelque chose que nous devons saisir par la foi, un petit peu comme en mathématiques, où on construit parfois des théorèmes sur des axiomes, qui sont invérifiables. C'est invérifiable. Mmh. Mais on part du principe que c'est bon quand même.
C'est le principe de base.
C'est le principe de base. Et après, on construit tout. Et toutes les mathématiques sont parfois construites sur des axiomes qui sont invérifiables. Si, d'un seul coup, les axiomes sont nuls,
sont démontrés faux,
alors il n'y a plus de mathématiques.
Oui. Hein?
Et au niveau de la foi, c'est un peu la même chose. Cet acte de foi...
Alors dites-nous quel est l'axiome de la foi.
Alors je pense que c'est Marc qui a la bonne idée, l'évangile de Marc.
Oui.
C'est-à-dire que lui, il va nous laisser devant le tombeau vide. Marc ne raconte pas la résurrection, laisse devant le tombeau vide. Maintenant, à partir de tout ce que je sais et ce que je vois maintenant... Quelle va être ma conclusion? Ma conclusion, c'est, bon, quelqu'un a piqué le corps, ou bien il s'est passé quelque chose, mais... Mmh. Ou bien, tout ce qui a été annoncé concernant la résurrection, c'est vraiment vrai. Et cette dimension de foi va me permettre d'aller avec enthousiasme, ou bien de rester dans l'angoisse, dans la désespérance, dans la situation des disciples, avant que Jésus n'intervienne.
Donc en fait, il faut maintenant revenir peut-être aux Écritures, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, pour leur expliquer la parole et pour leur ouvrir l'esprit, ouais. Comme il a été dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure.
Avec cette particularité qui est quand même audacieuse, Jésus leur ouvre l'intelligence, et il rappelle tout ce qui le concernait, lui, au travers de tous les textes de l'Ancien Testament, avec la Torah, avec les psaumes et avec les prophètes, les trois grandes séries de textes de l'Ancien Testament. Tout est écrit, tout est déjà dit, il suffisait de le saisir et de le saisir avec foi.
Merci beaucoup Éric Denimal d'avoir partagé toute cette réflexion autour de la résurrection et des résurrections dans la Bible, ces quelques jours après Pâques. Ainsi s'achève ce service protestant. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Alain Joubert et à Ghislaine David pour la prise de son et la réalisation. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez très régulièrement. Vous pouvez toujours nous écrire au service radio de la Fédération protestante de France, au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Et puis nous retrouver bien évidemment sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Dans un instant, le journal à suivre et puis retrouver Marc-Alain Wachnin pour Talmudic. Très bon dimanche à vous tous.